With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Tous les mercredis, on se retrouve pour vous parler de la sortie de la semaine. Ici, soyez prévenus, on spoile copieusement, mais c'est pour mieux analyser en détail les films dont on parle. Si vous voulez éviter de vous faire spoiler, allez d'abord voir le film et revenez ensuite nous écouter. À m'écouter cette semaine, une équipe tout terrain. Ils ont enfilé leur harnais, chaussé leurs crampons, accroché leurs mousquetons et sont prêts à attaquer ce podcast par la face nord. J'ai le plaisir de retrouver Julien.
Salut Clémence.
Pierrick.
Salut Clémence.
Et Arnaud.
Salut Clémence.
Premier de cordée à la technique, il assure des montagnes de montage sans filet. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et on dit merci à Latex pour l'habillage sonore. On ne dira jamais assez, cette émission existe grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous soutiennent. Merci à vous. Pour continuer à développer d'autres programmes originaux, intéressants et indépendants, on a besoin de sous. Si vous aussi vous voulez nous aider à grandir, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, direction le toit du monde. On vous parle du Sommet des Dieux, un film d'animation franco-luxembourgeois qui a marqué l'année 2021. On y suit Fukamachi Makoto, photographe pour un magazine de montagne. Un jour, alors qu'il est en reportage à Katmandou, sa route croise brièvement celle d'Abu Joji, alpiniste de talent que tout le monde pensait disparu. À partir de là, le reporter n'a plus qu'une idée en tête, reconstituer son parcours entre Japon, France et Népal et le retrouver. Son enquête le mènera au pied de l'Everest. Le Sommet des Dieux, c'est tout d'abord un roman du grand auteur japonais Baku Yumemakura, roman adapté en manga par Jiro Taniguchi au début des années 2000, une adaptation couronnée de succès jusqu'en France, où elle est récompensée par un prix du dessin au Festival d'Angoulême 2005. Pour cette version animée, coproduite par le studio Folivari et Julian Film, c'est Patrick Imbert qui est en charge de la réalisation. Après avoir assuré la supervision de l'animation sur différents longs-métrages, dont Ernest et Célestine, il réalise Le Grand Méchant Renard et autres contes avec son complice Benjamin Renner en 2017. Il signe ici son premier long en solo. Sélectionné dans la section « Je n'invente rien, cinéma de la plage » au Festival de Cannes, l'année dernière, Le Sommet des Dieux vient de recevoir le prix du meilleur film d'animation des Lumières 2022. Il est disponible en DVD, Blu-ray et sur toutes les plateformes de VOD depuis le 2 février. Alors, quand on est tout en haut de ce sommet, c'est quoi la météo ?
Un beau ciel bleu, bien glacial.
Froid, sec.
Ouais, moi j'allais dire une neige rafraîchissante.
Il y en a un qui s'est pas préparé.
Je suis assez d'accord avec Julien. Là, j'aime bien, c'est en altitude, le ciel bleu, il fait bien froid. Ouais, et le ciel est bleu avec le soleil.
Profond, tu vois.
Et il y a le soleil qui vous éblouit un petit peu.
On aime bien le bleu bien profond. Avec... Ouais. Ah non.
Voilà.
Très bien, bah vous allez nous expliquer plus en détail pourquoi. Donc bon, plutôt carton plein pour ce Sommet des Dieux.
Bah, je commence.
Ouais, allez, vas-y,
lance-toi. Non, alors j'étais très surpris parce que j'ai raté le film en salle, donc voilà, je suis content de l'avoir rattrapé. Mais surtout, c'est assez rare quand même des films d'animation français de cette qualité-là, avec une telle audace et avec un... parce qu'on sait que c'est pas simple à monter comme projet, déjà en termes de production. Clairement, je crois qu'ils ont mis 6-7 ans pour monter le projet. Et puis ensuite, bah, faut adapter un monument, quoi. Donc, pas évident. Le film fait 1h30. Je trouve que la narration d'un manga, c'est quand même très particulier. Et la narration d'un manga de Taniguchi, c'est encore plus particulier. Et je trouve que le film est une réussite à tous les niveaux. Moi, je me suis même replongé ce matin dans le manga pour voir un peu comment ils avaient raccourci des scènes. Pour des raccourcis scénaristiques pour adapter le film, et je trouve que c'est vraiment une réussite brillante. Enfin, les gars qui ont écrit ça sont vraiment très très bons. Et puis après, il y a la qualité de l'animation qui on sent, enfin au début j'avais un peu peur, c'est un peu fragile, on a l'impression que c'est un peu fragile, et en fait je trouve que ça correspond tout à fait au manga et au style. Je trouve qu'ils ont un caractère design qui est brillantissime. On sait tout de suite qui est qui, les motivations sont très bien expliquées, et je trouve que physiquement les personnages sont hyper bien incarnés, enfin hyper bien croqués, etc. Voilà, donc je trouve que c'est une vraie réussite, et puis bah, l'histoire est magnifique, hein, donc on se laisse emporter avec grand plaisir tout au long de ce film, avec plein de mystères, plein de questions, des évolutions de personnages, des surprises, des rebondissements. Voilà, moi je trouve que c'est 1h30 qui passe à la vitesse de la lumière, et on aimerait avoir des films d'animation de cette qualité-là en France plus souvent.
Drop the mic.
Ouais, d'autant plus que c'est quand même, il faut dire ce que c'est, hein, un petit peu, que l'œuvre originale de Jirō Taniguchi, c'est quand même une BD très longue. Hein,
1500 pages.
Ouais, ouais, j'allais dire 1000 pages, mais bon, je sais pas.
C'est Wikipédia.
Ouais. Et donc, c'est ce que je me souviens, je crois, il y avait 5 tomes. Hein.
Ouais.
Donc, effectivement, ils ont bien sabré dedans, quoi.
Ils ont coupé toutes les intrigues secondaires, en fait.
Les intrigues secondaires, ouais, notamment, il y avait par exemple, à un moment, une sorte d'intrigue secondaire un peu mafieuse, quoi, tu vois, quoi, qui conférait un petit peu un côté polar au truc, quoi. Il faut dire qu'après, Jirō Taniguchi, c'est quelqu'un qui vient de là à la base, c'est quelqu'un qui a été, en fait, qui a fait sa renommée en Europe, et notamment en France, où il a connu beaucoup de succès avec des mangas comme Quartier Lointain. Et pendant pas mal de temps, c'est ici qu'il a fait, en fait, son lectorat, et non au Japon. Au Japon, c'est un auteur, et même encore maintenant, ça reste un auteur un peu confidentiel, on va dire, quoi, même si moins qu'auparavant. Mais c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans le manga, qui a depuis le début, depuis la fin des années 70, début des années 80, je crois, et qui a commencé dans le pur manga de genre, hein, dans des polars. Je me souviens notamment de Trouble is My Business, là, qui était un polar hardboiled de pur jus, et qui était formidable. Et moi, je trouve que ce rapport au genre qu'a Taniguchi, qu'après il a évolué, on va dire, j'aime pas trop ce terme, mais vers un manga un peu plus manga d'auteur, quoi, il s'est nourri justement de ça. Et de son passif dans le manga de genre, ça a teinté un petit peu l'arrière-fond de pas mal de ses œuvres. Il en reste quelque chose un petit peu dans le film, notamment ce côté enquête sur l'appareil photo. Et au début, quand le journaliste croise pour la première fois cet alpiniste là, dont je me souviens plus le prénom, qui est ça va être un peu le tandem du film, tous les deux.
Abou Joji.
Voilà, Abou. Et il le croise dans une rue interlope, là,
très film noir, ouais,
au Népal, voilà, ouais, exactement. Et donc voilà, tout ça, ça. Alors c'est vrai qu'ils ont effectivement expurgé pas mal de ces intrigues secondaires. Il faut quand même saluer et dire leur nom, hein, parce que outre Patrick Imbert qui est le réalisateur, il y a aussi Jean-Charles Ostorero et Magali Pouzol. Parce que véritablement, ils ont fait, moi je trouve, un super boulot. Je m'y attendais pas, moi. Je dois dire que j'ai découvert le film à Cannes l'an dernier, justement, donc sur grand écran, j'en ai pris un peu plein la gueule. Moi, je ne suis pas trop client d'animation française, à la base. C'est souvent, je trouve... alors, c'est-à-dire, il y a un peu deux branches, quoi. C'est-à-dire, il y a l'animation pour enfants, de laquelle vient Fabrice Imbert, justement, avec des films comme Ernest et Célestine, dont tu as parlé. Et puis après, il y a ce qu'on va dire un peu une sorte d'animation de festival, quoi. Voilà, des trucs comme. Je sais qu'il avait eu une très bonne presse, mais moi, j'avais pas du tout aimé J'ai tué mon corps. Hein. Non, j'ai perdu mon corps. Hein. J'ai perdu mon corps. C'est en fait, moi, je peine à trouver dans l'animation française quelque chose de grand public, d'ambitieux. Et voilà, c'est soit pour les gamins, soit pour Télérama, quoi, en gros, quoi. Et du coup, la surprise n'en a été que meilleure, quoi, parce que sur le sommet des dieux, c'est vrai que voilà, il y a un côté effectivement hérité de Taniguchi, très contemplatif, tout ça. Mais il y a un côté aussi vraiment très prenant. Il y a des scènes d'alpinisme il y a deux trois scènes, je pense notamment à la première scène où il perd le petit. Le petit garçon qui veut faire de l'alpinisme avec lui, là, qui forme, à qui il apprend le métier. Après, il y a aussi l'épisode de la rivalité là, dans l'ascension des grandes jorasses.
Contre assez. J'ai plus son nom de famille.
Son rival, qui va finir par disparaître lui aussi d'ailleurs. Mais où c'est une pure scène de survival. Quoi. Et en plus, magnifique, c'est-à-dire où le gars s'en sort. Littéralement, il se retrouve suspendu dans le vide, et c'est pas mal d'ailleurs, parce qu'en fait, il se retrouve dans la même position que le petit garçon qu'il a perdu. Et du coup, tout de suite, quand on voit cette scène, on repense évidemment à ce qui s'est passé, et on a d'autant plus peur pour le personnage, quoi, ouais. Parce qu'il est littéralement suspendu à un fil, quoi. Et en fait, avec une jambe cassée et un bras cassé, il va réussir à se hisser jusqu'à un promontoire avec ses dents et avec son autre bras valide, quoi. Donc, et la scène, une fois qu'il s'est hissé sur le promontoire, on a une scène d'attente qui dure 3 jours, où on voit les soleils se coucher sur la frise des montagnes, comme ça, c'est d'une splendeur. Il y a beaucoup, justement, dans l'esthétique de la représentation de la montagne, ces pans entiers dans l'ombre, avec comme ça un liseré de lumière au sommet. Enfin, voilà, il y a vraiment des très, très beaux plans, quoi. Moi j'avais l'impression, surtout sur un grand écran, où j'avais l'impression d'être à la montagne vraiment, quoi, avec les personnages. Et donc il y a un côté très immersif qui est vraiment hyper payant pour le film, quoi, et pour le ressenti qu'on en tire, quoi.
Bah, le décor des montagnes, moi, j'ai trouvé, était quasiment réaliste. On aurait presque dit des photos à certains moments.
Générique de début notamment, je me suis posé la question. Mais surtout, ce que tu dis, c'est que c'est très efficace, c'est-à-dire que c'est jamais contemplatif. Y a une efficacité dans l'image, dans le plan et dans la longueur du plan, dans le rythme, qui fait qu'on n'est pas dans la contemplation, on est dans l'efficacité du sentiment, de ce qu'on doit ressentir à ce moment-là. Et c'est une gageure, parce que franchement, sur un film comme ça aurait été assez facile justement d'être dans le contemplatif.
Ouais,
et de faire durer des scènes qui n'avaient pas forcément besoin de l'être, quoi.
C'est vrai que c'est très réaliste, et que t'as des moments, t'as des textures comme ça qui paraissent presque photographiques, quoi. Mais après, il s'autorise aussi des moments un peu plus, on va dire, impressionnistes, quoi. Je pense à ces plans notamment où tu as sous un ciel étoilé, la montagne sombre de nuit, et puis une petite tente allumée au milieu, juste un petit dôme de lumière comme ça. Et puis après, il y a carrément la scène où à la fin, il a carrément il bascule dans des visions fantastiques, quoi, où il est en train de perdre la raison, là, le photographe, quoi. Il est bloqué, il est engourdi par le froid, le manque d'oxygène, tout ça. Il y a certains plans qui font penser notamment à, je pense que les amateurs de ce type de peinture connaîtront, Nicolas Roerich. C'était un grand peintre russe qui est le peintre de la montagne, qui a vécu en Himalaya, tout ça. Bon, les fantasticophiles connaissent aussi, parce que c'est quelqu'un qui a eu affaire à pas mal de tripes ésotériques, qui est cité dans les montagnes hallucinées de Lovecraft, tout ça, quoi. Il y a une vraie culture picturale, et qui ne se met jamais en avant, je trouve, qui est vraiment coulé dans le design, et notamment dans ce qu'ils font avec la 2D numérique. C'est vraiment, tu parlais du design des personnages aussi, je trouve que, parce que y a le style de Taniguchi, c'est un style très, très assuré, évidemment, très détaillé, donc c'était impossible de faire ça en animation, et je trouve qu'ils ont vraiment trouvé une sorte de compromis, mais qui n'en est pas un, parce qu'il fonctionne totalement, où on voit réellement des personnages de Taniguchi, mais pas avec le trait de Taniguchi. C'est assez étonnant, quoi, comme rendu final, quoi.
Julien.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je commencerai en disant déjà que c'est ce qui m'a plu, c'est que c'est vraiment un magnifique projet de cinéma, en fait. C'est-à-dire que et qui est très bien travaillé, c'est-à-dire qu'il y a il fonctionne par contraste, c'est-à-dire que tu alternes avec des scènes de ville foisonnantes, très denses, parfois même étouffantes, et l'épure de la montagne tout à coup, et ces scènes de souffle. Et ça m'a fait d'ailleurs penser à une petite réflexion comme ça, c'est qu'aujourd'hui, surtout avec le fait qu'il y ait beaucoup de numérique dans le cinéma et tout, on nous vante souvent le fait que ça a été tourné pour de vrai, ma bonne dame, et il y a pas de faux, et puis il y a pas de, et puis c'est pas du studio et tout. Et là, en fait, tu te rends compte que c'est vraiment c'est des âneries en fait tout ça, parce que ce film d'animation, effectivement, t'as vraiment l'impression de voyager. J'ai eu froid, j'ai eu le vertige. J'ai senti le vent, enfin voilà, c'est
très beau travail sonore aussi.
Tu te rends compte que c'est pas du tout comme ça en fait que fonctionne le cinéma, que tout peut être fait pour de faux, que c'est une construction cinématographique. Et là, elle est très belle. Et en plus, je trouve que c'est marrant. J'ai pensé à un film qui est pas terrible en fait de Balthazar Comincourt qui s'appelle Everest, qui partage pas mal de points communs avec celui-là, et notamment d'être aussi donc sur des alpinistes qui essayent de gravir l'Everest. Enfin, en tout cas, qui ambitionne de le faire, et c'est fascinant en fait parce que c'est un peu comme le western, c'est-à-dire que ça te contraint un peu à travailler sur quand même sur de l'épure, c'est-à-dire que c'est la montagne avec le ciel derrière, et il y a aussi le fait que t'es cette figure humaine absolument minuscule qui a un point en fait dans l'écran souvent au milieu d'un paysage grandiose. Et ce qui est super dans le Sommet des Dieux, c'est que cette imagerie fait écho aussi au sujet du film, qui a c'est un film sur le dépassement de soi, mais c'est aussi un film où tu cours après des modèles qui sont de toute façon insurpassables, tu cours après un objectif que de toute façon tu ne pourras pas atteindre, et comment tu trouves du sens en fait là-dedans, comment tu te réalises finalement là-dedans, qu'est-ce que tu cherches véritablement là-dedans. Et tout ça, moi je trouve qu'il y a une adéquation en fait entre ce que le film te raconte et ce qu'il te montre qui est vraiment extrêmement touchante. Et là où aussi je rejoins mes deux compères, c'est que c'est sur l'animation. Moi, elle m'a fait un tout petit peu peur au début, mais ils ont réussi et ça, c'est assez rare dans l'animation française, ou en tout cas occidentale, où tu fonctionnes beaucoup avec des images clés, en fait. C'est-à-dire que le mouvement importe moins que la posture du personnage. Et il y a une faculté dans ce film aussi à te saisir. Alors, c'est marrant parce que des fois, c'est rare, mais je me disais, les personnages surjouent un tout petit peu. Mais c'est très rare quand même. Parce qu'il y a quand même une faculté à travers un petit geste, une petite posture, un déplacement de main ou juste un positionnement de main en fait, à saisir dans quel état est le personnage, quelle est sa pensée, quel est son positionnement par rapport à l'autre avec qui il discute. Donc voilà, non, mais on a déjà dit beaucoup de choses, donc je vais être redondant après par rapport à mes deux collègues, quoi.
En fait, je me faisais la remarque parce que j'ai lu que en fait il y a certains animateurs qui sont arrivés sur le film en cours de route, enfin des animateurs ou des designers qui sont arrivés sur le film et qui ont travaillé sur une série qui s'appelle Last Man, qui est adaptée déjà d'un faux manga français, entre guillemets.
De Bastien Vives.
Et la série est formidable, hein, vraiment bien. Et elle me fait. Enfin, j'étais pas étonné quand j'ai vu qu'ils avaient participé à ce film-là, parce qu'on retrouve la même efficacité, ce que disait un peu Julien, le côté. Des fois, c'est pas forcément très animé, mais ils sont présents et charismatiques tout de suite, les personnages, parce qu'ils ont été designés d'une manière hyper efficace. Et narrativement, je trouve que c'est essentiel, parce que quand on est sur un film comme ça, d'une heure et demie, etc., il y a beaucoup à raconter. Le film raconte beaucoup de choses, mine de rien. Il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de péripéties, etc. Et je trouve que rien que par le jeu, entre guillemets, du dessin et des acteurs, il se passe énormément de choses, en fait. Et on comprend très vite les situations. Enfin, il y a une efficacité dans le découpage, dans la composition, qui fait que ça fonctionne tout de suite, quoi. Et c'est vrai ce que disait Julien. Au début, on a un peu peur. On se dit, sur quoi on va aller? Ça a l'air un peu fragile comme animation. Et finalement, non, c'est tout de suite très efficace. Et je pense que c'est vraiment l'alliance parfaite entre ce que doit être le scénario et la mise en image, quoi.
Il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait que là, moi, je suis pas tout à fait, je suis un peu moins Arnaud. Enfin, j'entends ce qu'il veut dire sur cette espèce de cinéma d'animation d'auteur qui est porté au nu aujourd'hui, mais par contre il y a quand même une vraie vitalité dans l'animation française aujourd'hui qui est due à plein de choses et notamment aux écoles qu'on a. Et il y a
totalement.
Et on est les seuls aussi, on est là dans l'industrie en fait de l'animation à avoir une telle amplitude en fait dans le champ en fait des films qui sont proposés. C'est-à-dire que voir à quelques mois d'intervalle un film comme Princesse Dragon là qui est sorti il y a pas très longtemps, qui malheureusement fonctionne pas du tout en salle, et le Sommet des Dieux, c'est assez fascinant parce que tu te rends compte que génération en fait de cinéastes, ils ont intégré à la fois beaucoup de choses de l'école, on va dire japonaise, hein, d'animation, de la Japanimation, et beaucoup aussi de tout ce qui s'est fait aux États-Unis, notamment avec l'école Disney. Et il y a quand même une vitalité, une diversité en fait dans les films d'animation française qui moi me fait quand même plaisir à voir. C'est-à-dire que je vais pas forcément effectivement porter au nu ces films un petit peu plus autorisants, on va dire, je sais pas.
Exigeants.
Ouais, enfin, je sais pas, parce que c'est pas forcément vers ça que je me porte, mais il y a quand même il y a quelque chose d'agréable en fait à voir là-dedans. C'est un secteur de l'industrie audiovisuelle française qui est quand même très curieux, dans le sens où ils sont ouverts à beaucoup beaucoup de choses et qui offrent énormément de choses. Pierrick parlait de Last Man, il y a Bobby Peel, enfin voilà, il y a énormément d'offres en fait. En France, c'est extrêmement varié et ça fait quand même.
Je trouve pas que ça soit si varié que ça, moi. Après, qu'il y ait effectivement des talents que le monde entier nous envie, parce qu'on a on fait autorité là-dessus, tu vois, sur les écoles, tout ça, des talents, on en a. Hein. Et puis c'est vrai qu'il y a peut-être de plus en plus de choses qui arrivent progressivement. C'est vrai qu'il y a la série de Netflix, là, adaptée du jeu vidéo, là récemment, Arcane.
Par exemple. Ouais.
Voilà, il y a des choses. On va dire peut-être qu'il y a des choses qui se passent, mais sur les moi, je parle peut-être sur la dernière décennie et encore jusqu'à il y a un an ou deux. Moi, je trouvais l'animation française très très sclérosée et très limitée, un petit peu toujours sur les mêmes choses, quoi. Mais bon.
Ce qui est intéressant avec Le Sommet des Dieux ou Last Man ou d'autres productions de ce type-là récemment, c'est qu'en fait, il y a une époque où le film d'animation classique, ça coûtait cher. Là, je sais pas combien ça a coûté Le Sommet des Dieux, mais je suis pas sûr que c'est un film qui coûtait très cher. Last Man, je sais que ça a coûté que dalle.
Je pense que ça a dû coûter cher sur la longueur, parce que comme tu le disais tout à l'heure,
oui, mais
c'est un film, ils ont commencé à bosser dessus oui, début, mais je sais pas début si la production 2014.
La production a duré si longtemps que ça, je sais pas.
Et ça devait être en 3D à la base aussi.
Ah ouais. Mmh. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je trouve que les écoles françaises, justement, ont aussi réussi à trouver des moyens d'être plus efficace avec moins de moyens, justement. Mmh. Dans le chara-design, dans une animation peut-être plus épurée, enfin en tout cas moins riche, mais en tout cas tout aussi efficace. Et je trouve que ça fait il y a une modernité qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, parce que encore une fois, enfin les derniers films Disney en 2D, enfin en animation classique,
ils ont lâché l'affaire. Mais tu vois, je pensais à un film comme Calamity aussi, tu vois, par exemple, là, qui est sorti, c'est pareil, hein, qui est un film qui est sorti très très récemment, de voir à peu près dans le même laps de temps ces trois films-là sortir. Moi, ça me fait plaisir quand même. C'est-à-dire que mine de rien, là, il y a quand même, il y a un truc qui est en train de se passer quand même. Et
minuscule.
Par exemple. Quand mais même. C'est des gens qui ont eu encore une fois une vraie curiosité culturelle, et ça porte aussi ses fruits, quoi. C'est-à-dire que voir ces trois films qui sont de qualité diverse. Hein, moi, Calamity, c'est un film que j'aime énormément aussi. Et je trouve que ce sont des ça fait plaisir à voir. Enfin, vraiment, il se passe quelque chose. Il y a des choses vraiment vraiment intéressantes et une façon en fait d'appréhender que je peux retrouver par exemple en BD. Bon, pareil, c'est pas la même industrie, c'est pas le même niveau et tout, mais où t'as l'impression t'as plein de graphismes en fait différents, quoi. Là où les productions américaines, par exemple, moi je trouve qu'elles les personnages ils se ressemblent tous, tu vois. Moi, Encanto, je déteste pas, tu vois, le dernier film de Disney, mais finalement tu pourras avoir ce chara-design chez DreamWorks, tu vois,
il y a plus de diversité dans les styles.
À chaque fois il y a une proposition graphique forte, voilà.
C'est vrai,
ça fait plaisir, quoi.
Il y a une époque où quand il y avait un DreamWorks, un Blue Sky ou un Pixar qui sortait, on savait rien qu'à l'affiche ou rien qu'à la bande-annonce de quel studio ça venait. Et aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à déterminer ça. Et j'ai l'impression que ça s'est vraiment lissé, en fait, le savoir-faire américain sur la 3D, etc. Et je trouve ça totalement inintéressant, quoi.
Pour revenir un petit peu au film aussi, je pense que ce qui est bien avec Le Sommet des Dieux, c'est qu'aussi d'en avoir, évidemment, le parti pris d'en avoir fait un film d'animation a facilité les choses. Mais c'est bien d'avoir aussi respecté le fait que c'était avec des personnages japonais. Je dis ça parce qu'évidemment, l'animation facilite ça, mais je me rappelle l'adaptation de Quartier Lointain. Bon, il était encore vivant, hein, Jirō Taniguchi, à l'époque, parce que là, il est mort en 2017. Il est mort le 2 ans après qu'ils aient commencé vraiment à travailler sur le film, quoi. Et ouais, son adaptation en prise de vue réelle de Quartier lointain, là,
catastrophe.
C'était ouais, il y a pas d'autre mot, je crois. Hein, c'était vraiment quelle horreur, comme dirait Julien Dupuis.
En parlant d'adaptation live, le saviez-vous, mais Le Sommet des Dieux a aussi été adapté en film live.
Il y a 4-5 ans, je crois.
Ouais, le roman, c'est le roman et pas le manga qui a été adapté. C'est Everest, Le Sommet des Dieux, sorti en 2016 au Japon et réalisé par Hideyuki Hirayama.
Ouais, tout à fait. Moi, je ne l'ai pas vu, mais...
Non, moi non plus.
Mais non, c'est vrai qu'après... Après, Taniguchi, c'est assez marrant parce que les gens les lecteurs qui ont fait un succès à ces récits plus intimistes, comme Quartier lointain, où je me rappelle, c'était très joli, ça aussi, les rêveries d'un gourmet... solitaire, voilà. Ouais. Ce type de récit, ils sont peut-être pas forcément, après, quand ils ont découvert Le Sommet des Dieux, habitués à ça, parce que c'est quand même un vrai récit d'aventure. Quoi. Et ce qui est marrant, c'est la versatilité de Taniguchi à la base. Quoi. C'est-à-dire, je parlais de Polar, les Polar Hard Boys avec lesquels il a commencé. Mais par exemple, le récit d'alpinisme, il avait fait un autre récit qui s'appelait K2. Plusieurs années avant Le Sommet des Dieux. Donc c'est quelque chose qui l'a toujours intéressé et on comprend facilement pourquoi, hein, ce que tu résumais d'ailleurs très bien, Julien, tout à l'heure, la différence entre la vie citadine dont il sait parfaitement observer les détails, Taniguchi, et ça se retrouve dans le film. Il y a des gros plans sur des bureaux, des verres de bière sur une table et des trucs comme ça, des gens agglutinés dans la rue, tout ça, et puis après effectivement donc ces paysages démesurés presque fantastique, hein. Et je pense que c'était quelque chose qui graphiquement l'intéressait énormément, Taniguchi, et que Humbert et ses collaborateurs ont su parfaitement capter, quoi. C'est ce va-et-vient continuel entre le détail et entre le micro et le macro, quoi, donne justement ce souffle presque épique à l'histoire, quoi.
Et puis, il faut savoir aussi que pour préparer le film, l'équipe s'est entretenue avec des alpinistes de profession, dont Vincent Vachette, un sumiteur. Les sumiteurs, c'est le surnom des personnes qui sont allées jusqu'en haut de l'ascension de l'Everest, qui ont atteint le sommet. Et donc, ils les ont rencontrés pour recevoir des conseils et parler de leurs expériences.
Alors, c'est vrai que ça, c'est plus anecdotique, mais il y a une autre grande qualité aussi. Alors, moi, j'ai pas lu le manga, je connais pas trop mal pourtant Taniguchi, mais j'ai pas lu ça. Mais par contre, il y a un autre truc, c'est que tu comprends tout. Oui. C'est pas simple, en fait, le système
ressens.
Des cordages et tout, mais tu comprends, en fait, comment ça fonctionne tout
c'est
de suite.
C'est très lisible.
Ouais, tout de suite. Tu comprends que s'il utilise tel ou tel outil, ça va s'accrocher comme ça et qu'il y a tel danger.
C'est-à-dire, il le fait dans l'action. Ouais, c'est-à-dire, par exemple, quand le gamin est suspendu au-dessous de lui, tu comprends que, comme la corde est en train de céder, il est obligé de créer 2 rappels sur les côtés pour pouvoir se...
Même comment tu peux visser, en fait,
ça,
certains...
Ça, ou quand le photographe commence à grimper et qu'à un moment, il se retrouve avec des crampes, etc.,
exactement,
à cause
ouais.
du froid et tout, c'est hyper bien retranscrit. Alors qu'effectivement, c'est pas quelque chose qu'on connaît, quoi.
Moi,
enfin,
j'y connais rien.
Ah,
hein,
non plus.
Je connais
Everest,
absolument.
J'ai pas fait récemment.
Non, mais je connais pas du tout, moi, le matos qu'ils utilisaient, tout. Et j'étais jamais perdu, en fait. Je me disais, ah oui, là, il faut utiliser effectivement ce truc-là.
Bon sens,
tu vois,
mais
je comprenais intuitivement. Ça a l'air bête, hein, mais je me suis pas posé la question. Et à la fin, je me suis dit, ah, putain, il a réussi aussi ça, quoi. C'est-à-dire qu'il
Après,
a réussi
à
m'expliquer les trucs. T'as pas une scène d'exposition où il y a un mec, avant de monter, il dit, alors si t'es là, faudra que tu utilises ça et ça et ça. Non, pas du tout, en fait. C'est sur le moment et tu comprends intuitivement. Bah, c'est pas intuitif, hein. C'est la narration visuelle qui fait ça, le découpage, la valeur de cadre et tout. Mais tu comprends tout à fait, en fait, comment ça fonctionne. Ça, c'est pas rien, mine de rien.
J'en parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a un travail sur le design sonore qui est, je trouve, là aussi assez rare, hein, dans l'animation française, dans un long métrage de ce type-là. Je crois que c'est à peu près la dernière demi-heure, les 30-40 dernières minutes. C'est l'ascension de l'Everest, quoi.
Ouais.
Avec les 2 personnages qui se suivent. Il y a très très peu de dialogue, à part un peu la tente la nuit là quand ils s'arrêtent, quoi. Ils échangent 3 mots, mais tout le reste c'est du silence, c'est des pas dans la neige, c'est du crissement de crampons dans la paroi. C'est des bruits de piolets qui s'enfoncent dans la glace. C'est ça n'est que ça quasiment. Et il y a une véritable. Enfin, on a presque l'impression d'y être parce que c'est un univers de bruit essentiellement et de silence. Et où les bruits prennent une importance qu'ils n'ont pas dans un environnement normal, quoi, couvert de bruit, quoi. Donc c'est j'ai particulièrement apprécié ça et je trouve que ça prend toujours une expressivité quand on a plus c'est plus rare dans l'animation justement. On a l'impression qu'il faut toujours faire du bruit et faire des sons. C'est peut-être plus courant dans la prise de vue réelle, mais en fait quand on a une coupure de son comme ça, quoi, avec des sons choisis et très rares. Ça prend un relief au niveau du ressenti du spectateur qui est décuplé, quoi, vraiment, quoi.
Et puis il y a une bande son aussi musicale qui est signée Amin Bouafa.
Honnêtement, je suis moins fan, moi, ça. Mais
bon, moi aussi. Ouais.
Ça vous a pas plu ?
Non.
C'est de l'ambiance.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une variété dans les styles qui était quand même assez intéressante parce qu'on passait de morceaux plutôt classiques à certains moments à quelque chose de plus rock aussi au début. Enfin, c'était varié.
Mais je sais pas. Non, ça m'a un peu gêné justement. Je sais pas.
Moi, c'est vrai que j'ai un petit regret.
Ça m'a pas emporté, quoi.
Ouais. Moi, ça m'a pas gêné, je veux dire.
Je
mais...
préfère ce que James Newton Howard avait fait sur Vertical Limit, par exemple.
Ouais, mais là, on n'est plus dans le même genre de film.
Non, mais
moi aussi, j'aime beaucoup cette musique.
Moi, justement, du beau symphonique, ça m'aurait bien plu sur un film comme ça, quoi. Là, c'est vrai que c'est un peu plus de l'ambiance. Bon, il y a deux, trois moments où je me suis dit que c'était assez pertinent parce qu'en fait, la musique, tu croyais que c'était justement de l'ordre du bruitage. Et en fait, c'est la musique, quoi. Tu vois, quoi, genre, je sais plus ce que c'était exactement, si c'était le bruit du vent dans les arêtes rocheuses ou un truc comme ça, quoi. Et donc là, ça, c'était pas trop mal, quoi. Mais globalement, moi, je trouve qu'il y avait des moments où ça manque. Mais bon, après, ça, c'est un peu personnel, hein. Mais où quand t'as des images fortes comme ça, moi, j'aime bien que ça. Et puis le cadre de la montagne se prêtait à ça, je trouve, à un bel orchestre symphonique. Voilà, mais bon, après, ça gêne pas dans le film non plus, hein, c'est pas...
Non, mais ça aurait pu emporter un peu plus, quoi, effectivement.
Bon, finalement, vous lui aurez trouvé quand même un petit défaut. Mais
ouais, bon, ça va, c'est pas...
C'est pas préjudiciable, c'est le plaisir qu'on prend au film.
Très
hein,
léger,
pas du
et
tout,
effectivement, hein. le bilan est quand même très, très positif.
Plutôt, ouais, plutôt bon, très positif.
Ouais. Ah ouais, et puis alors, les gens, évidemment, là, on fait pour la sortie
vidéo. On n'arrête plus.
Non, mais on continue, là, on y va, les gars, là.
Alors, mais il vient pas souvent, donc quand on dit là, il en profite,
profite
jusqu'à la dernière seconde.
Je me gave, la permettez. mais non, évidemment, les gens, ils vont le découvrir en vidéo, hein, puisque c'est pour la sortie Blu-ray, DVD, tout ça, et les plateformes. S'ils ont l'occasion, les gens, je sais pas, à la cinémathèque du coin ou une ressortie salle, essayez de le voir sur grand écran. Moi, je sais que j'ai vu sur grand écran. Et c'est superbe de se noyer dans ces images-là, vraiment, quoi. Parce que la télé, on a beau avoir un bon matos. Là, c'est vraiment, on se noie dans l'image. Et ce que disait tout à l'heure Julien, ces petits personnages perdus au milieu d'une immensité blanche, là, c'est quand vous avez tout le blanc qui vous entoure, quoi. C'est
super. C'est-à-dire que ça hisse le film à un nouveau sommet.
Ah, moi, c'est, moi, moi j'ai.
Ah, je veux voir au-delà.
Non, mais j'ai rarement vu un film d'animation français aussi immersif. Hein. Moi, je me suis vraiment retrouvé. Je me suis vraiment plongé dedans visuellement, au niveau sensoriel, tout ça. C'était bien beau.
Ça serrait des fesses.
On va toujours ramener ça, là, Julien.
Voilà,
non,
je crois qu'il est temps qu'on arrête.
On ne peut pas tenir une discussion avec toi sans que ça finisse là-dessus. C'est fatigant, la fin. Julien,
ah là là, on était sur une histoire poétique avec des images belles.
Mais oui, merde.
Et voilà, vous salissez tout. Bon, Le Sommet des Dieux, donc sur grand écran, si vous en avez la possibilité. Sinon, il est disponible en DVD, Blu-ray et sur toutes les plateformes de VOD.
Ouais, et puis alors en plus,
depuis non. Depuis le
docteur. J'ai eu peur.
Donc sur les plateformes de VOD.
Depuis le 2 février.
Coupe son micro.
On arrive à la fin de cette émission, le moment où vous avez la parole. Vous avez vu le film de la semaine et vous avez des commentaires à nous faire. Vous avez adoré, vous avez détesté. Dans tous les cas, ne soyez pas timide, donnez-nous votre avis. Pour ça, c'est très simple, retrouvez Capture Mag sur Messenger et enregistrez un message vocal. On le diffusera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Val, le documentaire sur la carrière de Val Kilmer. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On écoute ça tout de suite.
Salut Capture Max, c'est Jérôme. Je suis pas trop d'accord avec vous sur l'avis que vous avez donné sur Val. Je rejoins plutôt l'avis de Julien et je trouve que dommage que Kilmer soit jamais passé à la réalisation. Alors forcément, il passe sous silence ses excès, les raisons de son divorce, toutes les bouses qu'il a sorties en DVD. Forcément, c'est quand même bizarre de voir son attitude avant l'enterrement ou faire toutes ces blagues douteuses. Mais en réfléchissant, ben, ça reste un acteur hollywoodien qui reste sous son image. Donc on n'est pas dans du Eastwood ou du Stallone, mais j'ai trouvé le film extrêmement touchant. Merci encore pour toutes vos analyses, c'est vraiment super, continuez comme ça.
C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Julien, Pierrick, Arnaud, merci.
Merci.
Merci Clémence.
Et merci Alain.
Merci Alain.
Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager et qu'on planche sur d'autres programmes de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Enfin, pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.